à 3 mois, et ils annoncent un début d'été assez chaud.
On va en reparler tout à l'heure. Anissa Dadi, merci beaucoup pour cette météo. Bon réveil à vous, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le mardi 30 avril, il est pile 7h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Et à la une ce matin, pas touche à l'écran. Gamins, 10 experts remettent ce matin leur rapport au gouvernement. La consommation d'écran chez les plus jeunes sur le banc des accusés. Pour y remédier, les experts préconisent l'interdiction totale pour les moins de 3 ans. Pas de téléphone portable avant 11 ans. Le détail des propositions dans un instant. Dans ce journal également, la justice bientôt plus sévère contre les entorses à la laïcité. L'ordre vient de tout en haut, c'est-à-dire du garde des Sceaux. Un chiffre également ce matin, plus de 100 milliards d'euros, plein succès pour le PER, le plan épargne retraite. Plus de 10 millions de Français en possèdent un. Et puis le football, Europe 1 avec les supporters parisiens à la veille de la demi-finale à la Ligue des Champions, Dortmund, Paris Saint-Germain. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un remède radical qui ne plaira sans doute pas à tout le monde. Éloignez vos enfants des écrans, de tous les écrans avant 3 ans. Leur santé mentale et psychologique est à ce prix. 10 experts, médecins, psychiatres, industriels remettent leur rapport ce matin au gouvernement. Leurs recommandations s'apparentent à une révolution dans nos pratiques. Louise Salé.
Une règle simple, tout d'abord connue, certes, mais qu'il ne faut cesser de rappeler, pas d'écran avant 3 ans, car les effets sur le cerveau sont bien plus dévastateurs chez les tout-petits. Pour le téléphone, il faut attendre 11 ans. Les experts recommandent même aux parents d'acheter un portable sans Internet au collège, d'éviter les réseaux sociaux avant 15 ans pour des plateformes dites éthiques comme Blue Sky, et de s'abstenir d'aller sur Snapchat ou TikTok avant ses 18 ans, des sites pour lesquels il faudrait d'ailleurs combattre les algorithmes qui favorisent l'addiction, notent les membres de cette commission. Alors attendre la majorité pour s'y rendre, c'est sans doute un vœu pieux, mais qui peut être aidé par un autre cadre que celui des parents, instauré cette fois-ci à l'école, où les écrans doivent être limités. Pour les rapporteurs, il faut supprimer tout type d'outils numériques en maternelle, interdire le téléphone dans l'enceinte du collège, c'est déjà le cas, mais ce n'est pas toujours respecté partout, et d'expérimenter des lycées sans portable.
Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1.
Alors appuyez sur le bouton stop avant qu'il ne soit trop tard. Le Premier ministre a donc ordonné l'évacuation de la Sorbonne.
La faculté parisienne, brièvement occupée par une vingtaine de tentes de militants pro-palestiniens comme Sciences Po la semaine dernière. Mouvement de blocage et de soutien à la Palestine encouragé par des élus de la France insoumise. Mouvement pris plusieurs fois en flagrant délit de flirt avec l'antisémitisme.
Et c'est dans ce contexte inflammable que deux figures de la France insoumise sont attendues au commissariat ce matin.
Et pas n'importe lesquelles. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Rima Hassan, militante pro-palestine, candidate insoumise aux européennes. Elles vont devoir répondre toutes les deux d'une même accusation, apologie du terrorisme, convocation que compte bien mettre à profit le parti tout entier, Alexis de la Fontaine.
Rendez-vous est donné ce matin devant le siège de la police judiciaire à Paris. Les insoumis appellent tous leurs militants à venir mettre la pression aux enquêteurs contre ces convocations en espérant obtenir gain de cause grâce à leurs protestations comme dans les universités. Et pour mobiliser ses partisans, Mathilde Panot utilise la situation humanitaire à Gaza.
À chaque fois que des voix essayent de s'élever pour porter la question de la paix, soit le gouvernement répond par une répression alors que la jeunesse essaie justement de porter la voix de la liberté, ou alors elle répond par des apologies du terrorisme, elle répond par des annulations de conférences. Et la dérive autoritaire que nous dénonçons depuis des années sur la question vise à une seule chose, à faire taire les voix pour la paix.
Alors le parti de Jean-Luc Mélenchon serait-il victime de censure ? La France insoumise cherche plutôt à exploiter ses démêlés judiciaires pour entretenir sa stratégie de victimisation.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.
On parlait du mouvement étudiant en faveur de la Palestine et de Gaza, mouvement encouragé par certains élus de la France insoumise, qui puise sa source aux États-Unis, où le ton est en train de changer.
Et place nette là aussi contre les occupations sauvages. Ultimatum expiré à l'université Columbia de New York, fer de lance de la contestation étudiante. Plusieurs personnes sanctionnées, mais les militants refusent toujours de plier bagages. Campement démantelé en revanche à Boston dans le Massachusetts et à Austin au Texas.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04.
Le respect de la laïcité n'est pas négociable. Le ministre de la Justice demande au procureur davantage de sévérité possibilité en cas de violence commise au nom de la religion.
Et on parle de toutes les violences du quotidien, verbales et physiques, consignes transmises au procureur sous forme de circulaire. Le garde des Sceaux, en conformité avec une demande expresse du Premier ministre, nul ne peut agresser autrui parce qu'il ne respecte pas tel ou tel principe religieux. Ça devient même une circonstance aggravante, William Molinier.
Un homme qui violente sa femme parce qu'elle n'a pas mis son voile sera désormais poursuivi avec une circonstance aggravante, celle de violence commise en raison de l'appartenance vraie ou supposée à une religion. Éric Dupond-Moretti exige que les procureurs activent systématiquement dans ce genre de cas l'article 132-76 du code pénal. Cela permet d'augmenter la peine encourue. Jamais on n'était allé aussi loin dans l'interprétation de ce texte, souffle un magistrat. En clair, c'est aussi une façon de renforcer la protection des fidèles gênés par les franges rigoristes ou éloignés des principes de laïcité. Dans cette circulaire, le garde des Sceaux veut une réponse pénale ferme et rapide quand les infractions sont commises dans l'espace public ou aux abords d'un établissement scolaire. Les procureurs devront d'ailleurs réclamer une peine de prison ferme quand la circonstance aggravante de la religion sera retenue. Ces consignes ne s'appliquent qu'aux magistrats du parquet puisque seuls les juges du siège, c'est-à-dire ceux des tribunaux ou des cours, ont le pouvoir de condamner et de prononcer des sanctions.
William Molinier, spécialiste police-justice à Europe 1. À Châteauroux, le meurtrier présumé de Matisse mis en examen pour meurtre et écroué. On rappelle qu'il est âgé de 15 ans. Sa mère est également mise en examen pour violence volontaire. Elle aurait giflé la victime alors qu'elle se trouvait au sol après avoir été frappée de plusieurs coups de couteau.
Alors figurez-vous qu'un jeune sur trois pense déjà à sa retraite. Tout est bon pour la préparer. C'est peut-être ce qui explique le succès grandissant du PER. Le plan épargne retraite.
Il y a plus de 10 millions de Français en possèdent un produit de retraite par capitalisation issu de la loi Pacte de 2009. Selon les derniers chiffres de Bercy, le PER vient de franchir la barre des 100 milliards d'euros d'encours. Pourquoi un tel succès, Margot Fodéré ?
Eh bien d'abord parce qu'il offre des avantages purement techniques. Contrairement à ses prédécesseurs, le plan d'épargne retraite peut être liquidé de différentes manières, soit en percevant un revenu régulier tout au long de sa vie, soit en récupérant son épargne au moment du départ à la retraite. C'est ce qu'on appelle une sortie en capital. Surtout, le PER est très intéressant en termes de fiscalité, notamment pour les Français aux revenus les plus élevés, explique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne.
C'est la déduction fiscale. Ceux qui sont imposables à l'impôt sur le revenu peuvent déduire les sommes investies dans leur PER et donc cela, évidemment, constitue un argument choc pour le développement de ce type de produit.
Au-delà de ces avantages techniques, un autre facteur, plus culturel cette fois-ci, explique le succès fou du PER. C'est l'inquiétude des Français. Près de 75% d'entre eux pensent que leurs pensions ne leur permettront pas de vivre correctement à la retraite. Alors certains constituent leur propre épargne en mettant de l'argent de côté, que ce soit sur un PER, une assurance vie ou en investissant dans l'immobilier.
Margot Fodéré du service économie d'Europe 1. Succès fou aussi pour les amendes routières. Plus de 2 milliards d'euros de recettes l'an dernier, nouveau record selon la Cour des comptes, plus de 7% de hausse par rapport à 2022.
Le football européen est allé tâter le pouls des supporters parisiens avant la demi-finale demain soir de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain.
Ah, cette musique, et puis face au Borussia Dortmund, son stade de 82 000 places, il y a aussi ce mur jaune, tribune de supporters réputée pour son ambiance. Près de 4000 Parisiens vont faire le déplacement. Cyril de la Morinerie en a rencontré deux reportages.
Oui, Maxime et Victor vont partir ensemble demain à Dortmund. Pas question de voir ce match à la télé, c'est en tribune que Maxime veut vivre ce grand rendez-vous.
On n'a pas hésité une seconde, hein, dès que la billetterie est sortie, on a pris tout de suite nos places. Ça va être une journée historique qu'on ne voulait pas rater.
Ces deux fans du PSG vont partir de Paris en voiture, durée du voyage un peu plus de 6 heures. Pour l'occasion, Victor va décorer le véhicule.
On va mettre les maillots sur le tableau de bord, les écharpes sur les fenêtres. On est prêt pour supporter le PSG.
Et une fois arrivé au stade, le menu c'est saucisses frites, puis victoire du PSG.
Vu les dernières performances de Dortmund, oui, on espère la victoire. Après, voilà, ça reste un match de Ligue des Champions.
Mais face au mur jaune et ses irréductibles supporters allemands, il sera difficile de se faire entendre. Victor va tout donner.
L'idée, c'est de finir avec plus de cordes vocales et de chanter.
Et Maxime s'échauffe dès maintenant la voix pour tenter de remporter également le match des tribunes.
Après tant d'années de galères et de combats, ou pour toi Paris SG, on va se casser la voix.
À Dortmund, Dortmund-PSG en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est demain soir à 21h. Vous avez déjà une première demi-finale ce soir, hein. C'est pas mal non plus. plus comme programme.
Et alors c'est quoi cette Bayern
de Bayern-Real.
Anissa l'avait
avec
déjà
dit. Beaucoup d'absents au Bayern, attention.
Notamment le français Upamecano, très incertain pour l'Euro à ce stade des opérations. Merci beaucoup Christophe Lamarre pour cet excellent journal, comme d'habitude. Merci à vous, il est 7h09 sur Europe 1.
Dans un instant, l'édito écho.
On va, alors que s'ouvre en France le débat sur les écrans, est-ce qu'il faut les interdire avant 3 ans? Aux États-Unis, il est question d'interdire TikTok. Ah, non pas pour raison de santé publique, un peu si, mais surtout pour raison stratégique. TikTok, vous êtes 25 millions à avoir un profil sur ce réseau social chinois. On va voir ça avec Nicolas Bouzou. Juste après, l'invité actu d'Europe 1 Matin, nous serons en ligne avec Pauline Condomine, journaliste au magazine Livre Noir. Elle est allée voir du côté de Sciences Po si elle reconnaissait certains des visages qu'elle avait pu croiser lors de son enquête sur les réseaux pro-Hamas en France. A tout de suite.
7h, 9h,
Europe 1 Matin.
Bonjour, c'est Elisabeth Assayag.
Europe 1, la France bouge.
À quelques semaines des Jeux d'été, comment se préparent les entreprises locales au savoir-faire français? Pour cette 6e étape de la saison avec les chambres de commerce et d'industrie, nous serons ce soir à Anglette, près de Bayonne. J'accueillerai 3 startups locales autour d'Alain Di Crescenzo, le président de CCI France, qui endossera le rôle du coach.
La France bouge, émission spéciale depuis Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques, avec la CCI.
Alors, je vous donne rendez-vous ce soir, nouvel horaire pour La France bouge, 21h, 22h sur Europe 1.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
7h, 9h.
Europe 1 Matin.
Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la journaliste Pauline Condomine.
Bonjour Pauline Condomine.
Bonjour Dimitri, merci de me recevoir.
Bienvenue sur Europe 1, Pauline. Vous signez ce mois-ci dans le magazine Livre Noir, une très grosse enquête intitulée « Infiltré au cœur de l'extrême gauche ». En effet, pendant des mois, vous avez navigué entre des groupes antifa, des éco-activistes, des associations pro-migrants, des groupes pro-Hamas également. Alors vous êtes avec nous ce matin, Pauline Condomine, car on ne peut pas manquer de constater des similitudes entre votre enquête et ce que l'on voit en ce moment dans les universités françaises, agitées par des mobilisations pro-palestiniennes, que ce soit à Sciences Po la semaine dernière ou encore hier à la Sorbonne. Pauline Condomine, qui sont ces militants de Gaza? Est-ce que vous avez retrouvé notamment à Sciences Po des visages, des collectifs, des slogans que vous avez croisés pendant votre enquête pour Livre Noir?
Oui, effectivement, j'ai retrouvé des militants, des visages que j'avais croisés, car dans le cadre de mon enquête sur des groupuscules et des collectifs d'extrême gauche, j'ai intégré notamment une association qui se présente comme une association pro-Palestine et qui s'appelle Urgence Palestine, et qui est en réalité un réseau pro-Hamas, et dont justement fait partie ce comité de la Sorbonne. Donc ce comité avec ses militants fait partie d'Urgence Palestine, qui est un réseau pro-Hamas sur lequel j'ai enquêté pour mon enquête sur l'extrême gauche.
Mais et donc vous êtes formelle, Pauline, vous nous dites ce matin sur l'antenne d'Europe 1, il n'y a peut-être pas que des étudiants qui spontanément se mobilisent par émotion pour les malheurs des Palestiniens. Non, vous voyez, vous, une organisation politique qui défend des objectifs qui ne sont peut-être pas forcément que strictement la défense des Palestiniens.
Tout à fait. Alors déjà, c'est organisé parce que ce comité, ce collectif dans lequel j'étais avait pour ambition justement de se développer dans les universités, notamment via ce comité de la Sorbonne. Et puis effectivement, moi-même, en intégrant ce groupe, je me disais que peut-être j'allais me retrouver dans un collectif qui défend les civils palestiniens dans le cadre justement de la guerre entre le Hamas et Israël. Et en vérité, c'est un groupe très offensif qui considère que le Hamas est un mouvement de résistance, bien que ce soit un groupe terroriste islamiste.
Qu'est-ce que c'est ce collectif Urgence Palestine et quel but poursuit-il, Pauline Condomine?
Alors en fait, c'est un groupe qui a été créé suite au massacre qui ont été commis le 7 octobre par le Hamas en Israël, donc qui ouvertement est un groupe qui défend la Palestine, mais qui en vérité a été créé parce que les massacres du 7 octobre ont généré une forme d'espoir chez ses militants. Et en fait, ce sont des militants anti-sionistes. C'est-à-dire que pour eux, Israël n'a pas lieu d'exister. Israël doit entièrement disparaître. Et la Palestine, en fait, doit être libérée entièrement selon eux. Et ce groupe soutient le Hamas. Alors, c'est à peine voilé, hein, parce que le groupe se dit anti-sioniste. Il dit qu'il soutient la résistance du peuple palestinien. Et lorsqu'on se rend à ces réunions, on entend une apologie assez permanente des massacres commis le 7 octobre qui, pour les militants, sont un vrai motif d'espoir.
C'est-à-dire qu'il y a, un décalage entre les propos qui sont tenus publiquement, qui sont des propos tenus, des propos maîtrisés, et ce que vous avez pu entendre, vous, dans l'intimité de réunions fermées au public ou encore sur des groupes WhatsApp, des boucles WhatsApp réservées aux militants. Vous avez constaté cet écart ?
Tout à fait, il y a un décalage. Les propos qui sont tenus publiquement maintiennent une certaine ambiguïté. Quand ils disent qu'ils soutiennent la résistance du peuple palestinien, en vérité, ils désignent le Hamas, mais ils ne disent pas directement « nous soutenons le Hamas ». Mais lorsqu'on va dans ces groupes, on se rend compte, certains, par exemple, une militante, la première réunion à laquelle j'ai assisté, a expliqué que pour elle, le 7 octobre, ça avait été la résistance en action. Un autre militant a par exemple dit qu'il fallait soutenir la résistance du peuple palestinien sous toutes ses formes, et ainsi qu'il ne fallait pas condamner les viols commis par le Hamas sur les civils israéliennes. Et toutes ces déclarations ont été tenues notamment devant une députée de la France Insoumise à laquelle j'étais à cette réunion, qui s'appelle Danielle Simonet. Et donc ces groupes qui sont en lien avec des députés notamment de la France Insoumise, ces députés savent très bien ce qu'il en est, et ils jouent un peu avec le feu parce que ces militants sont extrêmement radicalisés et que ça peut même les dépasser.
Oui, effectivement, les Insoumis, on les a beaucoup vus, notamment du côté de Sciences Po, Émeric Caron, Antoine Léaumont. Certains d'ailleurs ont diffusé un message de félicitations, un message de Jean-Luc Mélenchon qui se trouvait à ce moment-là en Arménie. Ça ne vous a pas surprise, j'imagine, Pauline, de les retrouver, ces élus Insoumis. Quel est leur objectif? Objectif, d'après vous, dans ce soutien ostensible adressé aux étudiants pro-palestiniens ?
Non, ça ne m'a pas du tout surpris, car j'ai effectivement côtoyé des personnalités de la France Insoumise lors de mon enquête sur ce comité pro-Palestine. En fait, ils ont une visée très certainement électorale, mais ça a ses limites, hein, comme les militants étaient extrêmement radicalisés, ils considéraient que les députés de la France Insoumise étaient même trop tièdes. Justement, moi j'ai vu Danielle Simonet qui expliquait à ses militants qu'elle n'était pas d'accord avec tout ce qu'ils disaient, parce qu'ils louaient concrètement les massacres du 7 octobre. Mais elle leur a dit « mais manifestons ensemble, je pense que c'est la meilleure chose à faire ». Et les militants ont trouvé qu'elle était beaucoup trop modérée. Donc ils s'adressent à ces éléments radicaux, ils connaissent leur radicalité. Ils font ça à visée, bien sûr, électorale, parce que ces personnes, justement, vont charrier beaucoup de monde en manifestation. Ils ont une grande influence à la fois sur des jeunes de l'université, mais aussi dans certains quartiers. Et donc, effectivement, il y a une visée électorale pour ces personnalités de la France Insoumise.
Notamment, alors vous avez, j'ai lu ce propos dans votre enquête, Rima Hassan, donc, qui est la figure de proue des Insoumis dans cette campagne pour les européennes et qui incarne véritablement la cause palestinienne, elle est considérée par certains de ces militants que vous avez pu croiser du collectif Urgence Palestine comme une traîtresse à la cause. Comment ça se fait ? On est un peu surpris qu'elle soit considérée comme trop molle, finalement.
Effectivement, c'est assez surprenant. En fait, Rima Hassan s'est prononcé pour l'existence d'un État binational, donc avec deux nationalités au Proche-Orient, et ses militants sont réellement antisionistes, c'est-à-dire que pour eux, il ne doit y avoir qu'un État, et un État qui soit simplement palestinien. Et donc, effectivement, lorsqu'elle s'est prononcée pour cette solution dans les médias, les militants d'Urgence Palestine ont considéré que c'était une traîtresse et que c'était en fait un dévoiement de la lutte palestinienne que de tenir ces positions-là. Et je pense que ça montre beaucoup leur radicalité, parce qu'effectivement, Rima Hassan doit un peu adapter son discours au monde des médias et au monde politique. Et en fait, ces militants n'arrivent pas à le comprendre, tant ils sont obsédés par leur haine d'Israël et leur volonté qu'Israël disparaisse.
Merci beaucoup, Pauline Condomine, pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Et donc, on vous lira ce mois-ci dans le magazine Livre Noir, votre grande enquête infiltrée au cœur de l'extrême gauche. Merci à vous, Pauline Condomine. Bonne journée.
Merci à vous.
Il est 7h18 sur Europe 1. Dans 5 minutes, le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives.
Bonjour, Lord d'Autriche.
Bonjour à tous.
Alors, quel 30 avril allons-nous revivre ce matin ?
Le jour où Céline Dion a remporté l'Eurovision, c'était le 30 avril 1988.
Allez, à tout à l'heure. Tout de suite sur Europe 1, l'édito écho.
7h-9h, Europe 1 matin.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à
Nicolas.
Tous.
On part avec vous ce matin aux États-Unis, Nicolas, où le spectre de l'interdiction se rapproche pour le réseau social TikTok.
Ouais, absolument. Alors TikTok, hein, c'est le réseau social chinois détenu par une entreprise de tech qui s'appelle ByteDance. Le réseau social compte 1,5 milliard d'abonnés dans le monde, 135 millions en Europe, et vous êtes quand même 25 millions en France hein, à utiliser TikTok. Alors ce sont surtout des jeunes. Et le Congrès américain, de façon transpartisane, hein, ce qui est assez rare, dans un grand consensus, vient d'obliger TikTok à céder sa branche américaine à un actionnaire américain, mais ce que les Chinois refusent en réalité. Donc le plus probable, c'est que l'application TikTok sera désactivée aux États-Unis.
Et que reprochent les Américains à TikTok
hein? Tout, à peu près tout. Hein. Alors premièrement, de détruire le cerveau des jeunes. C'est vrai que TikTok, c'est une application de vidéos courtes hein, qui dure quelques secondes. Il est prouvé que c'est la forme la plus addictive de format numérique. Les études appellent cela hein, le phénomène de l'économie de la captation et montrent que ça modifie en effet le fonctionnement du cerveau. La France, aujourd'hui d'ailleurs, voit la remise de la commission écran au gouvernement hein, et cette commission fait état de cette économie de la captation. Dans 20 ans, il est possible que ce type d'appli soit considéré comme la cigarette aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, ce que rappelle la commission écran, c'est qu'on ne peut pas exclure que des applications comme TikTok aient une part de responsabilité hein, dans l'épidémie de troubles mentaux qui affecte la jeunesse. Alors, les Américains soupçonnent aussi TikTok de manipuler l'information en faisant en sorte de privilégier du contenu occidental ou pro-Trump hein, dans ses algorithmes. Je rappelle quand même qu'un tiers des Américains de moins de 30 ans s'informent prioritairement sur TikTok. Et puis, Dimitri, il y a bien sûr l'argument protectionniste. Les Chinois utilisent les milliards de données collectées sur TikTok pour faire progresser leurs propres intelligences artificielles. Or, les Américains veulent absolument rester leaders sur ces technologies.
Est-ce que la France pourrait emboîter le pas des États-Unis, Nicolas, et décider d'une interdiction similaire?
Alors, pas tout de suite, hein, parce que le climat diplomatique entre l'Europe et la Chine est meilleur qu'entre les États-Unis et la Chine, mais les Américains pourraient pousser les Européens à prendre des dispositions contre TikTok. Et les Européens, pour prendre des mesures restrictives, utiliseraient sans doute l'argument de la santé mentale plutôt que l'argument protectionniste. Bah, c'est tout le sens, justement, de la commission écran en France, hein, qui propose de rendre disponible les réseaux sociaux dits, entre guillemets, non éthiques, TikTok est dedans bien évidemment, de les rendre disponibles seulement à partir de 15 ans. Une chose est certaine, en tout cas, l'ère de la naïveté par rapport aux réseaux sociaux, aux États-Unis, en Europe, en France, c'est terminé.
Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas. Merci.
Europe 1.
Dès 18h sur Europe 1, toute l'actualité de la journée, vous la retrouvez avec, pour commencer, Laurence Ferrari.
Oui, ça s'appelle Punchline avec Laurence Ferrari et ses invités. C'est une heure d'information, de débat et d'analyse. 18h, 19h, Punchline, c'est tous les jours sur Europe 1 et sur CNews.
Et n'oubliez pas, votre nouveau rendez-vous d'actu, c'est depuis hier, 19h, 21h, Europe 1 soir, nouvelle formule animée par Pierre de Villeneuve, une tranche d'info de toutes les 12h, de 2h sur l'antenne d'Europe 1. Vous avez tout le programme. Pour l'heure, 7h22, bon réveil à vous, excellente journée. L'essentiel de l'actualité, le journal permanent. Christophe Lamarre.
Gérard Depardieu sera jugé à l'automne pour agression sexuelle. Procès en correctionnel après la plainte de deux femmes qui auraient été agressées sur le tournage d'un film Les Volets Verts en 2021. Convocation remise au comédien hier à l'issue de sa garde à vue. À Châteauroux, le meurtrier présumé de Matisse mis en examen pour meurtre et écroué. On rappelle qu'il est âgé de 15 ans. Sa mère est également mise en examen pour violence volontaire. Elle aurait giflé la victime alors qu'elle se trouvait au sol après avoir été frappée de plusieurs coups de couteau. La région Île-de-France coupe les vivres à Sciences Po après les manifestations pro-palestiniennes du week-end dernier. Les forces de l'ordre ont par ailleurs évacué hier un campement sommaire installé à la Sorbonne. L'autoroute A13 Paris-Normandie rouvrira dans un seul sens d'ici deux semaines si tout va bien. Le chantier d'un parking voisin est soupçonné d'être responsable des fissures qui ont entraîné sa fermeture. Et puis le football, première demi-finale aller de la Ligue des Champions. Bayern Munich-Real Madrid à 21h ce soir. La demi-finale du PSG, ce sera demain même heure, mais sur la pelouse du Borussia Dortmund.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir.
Europe 1. 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Jour où.
Oui, et de la chanson aujourd'hui lors d'Autriche, le 30 avril 1988. Céline Dion remporte l'Eurovision. Elle n'a alors que 20 ans.
Oui, ce soir-là, dans une robe dorée, Céline Dion chante le titre « Ne partez pas sans moi » sous les couleurs non pas du Canada, mais de la Suisse.
Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre.
Elle n'a que 20 ans, mais est déjà une star au Québec. Cette victoire à l'Eurovision va la rendre célèbre en Europe. Mais en France, elle est déjà connue du public, en particulier lorsqu'elle est passée dans la célèbre émission de Michel Drucker, Champs-Élysées. Et il l'invite ensuite sur Europe 1 en 1984.
Déjà, j'ai un fait pour les Québécois en général, mais pour elle en particulier, parce que c'est la plus jeune hein, de la nouvelle vague, et puis elle chante très bien. Céline Dion, qui sera peut-être sur une scène parisienne à la rentrée prochaine, ce serait bien.
J'espère bien. Et Céline Dion fait effectivement, au milieu des années 80, la première partie de Patrick Sébastien à l'Olympia pendant plus d'un mois. Ce qui la révèle, c'est sa chanson « D'amour ou d'amitié ». Elle devient la première Canadienne à obtenir un disque d'or en France, soit 500 000 exemplaires vendus. En 1985, elle a à peine 17 ans.
Pas encore 17 ans.
16 ans et demi.
Et elle est à nouveau l'invitée de Michel Drucker sur Europe 1.
On va faire des tournées, et puis ma première tournée, ça va être au Québec. 23 musiciens avec des danseurs. Puis moi, c'est ce que j'aime le plus faire, c'est d'avoir contact avec les gens. J'aime beaucoup ça.
Céline Dion a une discipline de fer pour garder sa voix intacte. C'est ce qu'elle confie à Jean-Yves Chaperon sur Europe 1 en 1996.
Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne sors pas, I don't party. Dans chaque journée de congé, je ne parle pas, je fais la mue totale.
Pour économiser la voix pour
oui. Le meilleur repos, c'est bien sûr de ne pas parler du tout.
Et quand, dans les années 90, on la compare à Mariah Carey ou à Whitney Houston, voici ce qu'elle répond.
Je veux pas être la meilleure de tout le monde, je veux être la meilleure de moi-même. Mais mon modèle, c'est ma mère. C'est la plus grande artiste que je connaisse.
Avec Jean-Jacques Goldman, Céline Dion fait aussi en 1998 l'album « S'il suffisait d'aimer », 4 millions d'exemplaires vendus.
Merci Lord d'Autriche. Réalisation sonore Sébastien Guidis, et on remercie Sylvain Denis aux archives d'Europe 1 pour l'exhumation de tous ces beaux souvenirs musicaux de l'antenne d'Europe 1. Allez, il est l'heure de jouer avec le Jourouche.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Et toute cette semaine, Europe 1 vous offre chaque matin un cadeau exceptionnel. Une carte cadeau de 500 euros valable dans les hôtels et restaurants Territoria. Alors Territoria, c'est une communauté d'établissements présidée par Alain Ducasse qui regroupe les plus beaux hôtels d'Europe et plus d'une centaine de tables étoilées. Vous aurez le choix, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec 430 maisons. Vous allez pouvoir choisir votre destination sur territoria.com.
La question du jour, la voici. Quel est le titre de la chanson de Céline Dion qui remporte l'Eurovision en 88 S, Ne partez pas sans moi, ou bien D'amour ou d'amitié?
Alors ce matin, pour tenter votre chance, vous envoyez Évasion au 739 21, 2x75 centimes plus coût du SMS. Et nous avons cette semaine un gagnant par jour pour ce très beau cadeau de 500 euros dans les hôtels et restaurants Territoria. Bonne chance à tous. Notez qu'à 8h10, Sébastien Chenu sera l'invité de la grande interview Europe 1 Seigneur.
Le député Rassemblement National du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale, rendez-vous face à Sonia Mabrouk dans trois quarts d'heure.
Europe 1.
Nous sommes recordman d'Europe en matière de prélèvements obligatoires. Est-ce qu'on peut continuer sur une pente à la grecque ou est-ce qu'on redresse ce pays?
On tient, on résiste et on assume un principe de laïcité.
Il y avait beaucoup plus d'insouciance, en tout cas il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une peur généralisée.
Si vous êtes condamné à moins de 6 mois de prison, vous n'allez pas en prison. Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas si grave que ça.
Je vous jure que le temps que je fasse mon lacet, que je relève la tête, j'ai vu le couteau se planter.
On ne peut pas continuer comme ça à exposer nos enfants, la jeunesse, à des formes de violence inouïe.
Un enfant, c'est pas un droit. Quand on le fait, c'est qu'on le veut et qu'on doit l'assumer.
Europe 1. 7h, 9h, Europe 1 matin.
Place au temps, Anissa Haddadi. Nous avons une journée bien humide devant nous, là.
Oui, on ne va pas vers le mieux et on ne va pas aller vers le mieux dans les jours qui arrivent. C'est vrai que le ciel est encombré, chargé, nuageux, surtout entre les Hauts-de-France et le Languedoc-Roussillon, où c'est très nuageux ce matin avec des averses fréquentes. C'est dans le sud, entre le sud de l'Auvergne et l'Hérault, que les pluies sont les plus soutenues. Nous avons une autre zone pluvieuse ce matin qui s'y sur le Finistère. Alors si vous ne vous trouvez pas entre les Hauts-de-France et la Méditerranée, si vous n'êtes pas dans le Finistère ce matin, ça veut dire que vous aurez droit à quelques belles éclaircies. Et ça, c'est plutôt agréable. Et si je peux vous donner un conseil d'ami, Profitez-en, parce que ça ne va pas durer. Le ciel va de plus en plus se couvrir sur la majorité des régions. Le soleil résiste entre les Pays de la Loire et le Pays Basque, le long de la façade atlantique. Le soleil résiste également sur le Limousin, mais alors partout ailleurs, c'est très nuageux. Et attention, cet après-midi, nous avons de nombreux orages qui se déclenchent entre le Lyonnais et la Bourgogne jusqu'au sud de la région parisienne. Des orages qui peuvent être localement forts avec de la grêle. Donc prudence dans ce secteur. Le soleil résiste également en Alsace, du côté de Strasbourg. Strasbourg, justement, c'est la maximale. 25 degrés aujourd'hui. 23 à Nancy et Ajaccio. 22 à Nice et Bordeaux. 20 degrés à Paris et Lyon. Vous le sentez, hein, ça se réchauffe. 19 au Havre. 17 à Clermont-Ferrand. Ça baisse à Montpellier avec seulement 16 degrés et 13 à Brest.
Voilà, on verra peut-être tout à l'heure avant le journal de 8h qu'on a de grosses chaleurs peut-être à prévoir à partir de la mi-mai. On se garde ça pour tout à l'heure, Anissa Dadi. Merci à vous. Nous sommes le mardi 30 avril. Bon réveil à vous. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1 matin.
7h-9h. Dimitri Pavlenko.
Et voici votre journal à la une ce matin. Plus 1 euro pour Sciences Po. La région Île-de-France coupe les vivres pour une durée indéterminée après la manifestation pro-palestinienne de vendredi dernier. De leur côté, la majorité des étudiants ne demandent qu'une chose, pouvoir suivre leurs cours en toute tranquillité. Reportage sur place dans un instant. Les Républicains vont-ils à nouveau adouber Nadine Morano et Brice Hortefeux sur la liste des européennes? Les jeux ne sont pas encore tout à fait faits. Décision dans la journée. Et puis nous prendrons la direction de l'autoroute A13 dans ce journal. Autoroute fissurée, fermée à la circulation au moins jusqu'au 11 mai dans le sens Provence-Paris. Dégradation du bitume peut-être due à la construction d'un parking en contrebas de l'autoroute. Le journal de 7h30 sur Europe 1. Nina Pavan, bonjour Nina.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Quand une minorité militante fait la loi, c'est la majorité qui trinque. Des milliers d'étudiants de Sciences Po Paris empêchés de suivre les cours depuis vendredi dernier et la mobilisation pro-palestinienne qui a secoué le campus. Tous les examens et les cours ont dû être annulés. La direction a choisi d'abandonner les poursuites. En réaction, la région Île-de-France suspend ses subventions à l'école parisienne. Objectif, faire pression pour ramener la sérénité et la sécurité sur le campus. Le reportage rue Saint-Guillaume de Caroline Baudry pour Europe 1.
Les drapeaux palestiniens sont repliés, les pancartes à slogans rangées, mais Ethan, 20 ans, exige une réponse plus ferme de la direction après ce qu'il raconte avoir vu dans son école.
Pour les gens qui bloquent, qui font du trouble à l'ordre public, des slogans « From the river to the sea » qui appellent clairement à la destruction de l'État d'Israël, des images avec les mains rouges qui rappellent en fait un attentat qu'il y a eu à Ramallah. Si en tout cas c'est fait volontairement, ça doit amener une sanction.
Le malaise autour du noyau dur de militants est palpable, lâche discrètement Samuel et Azilis.
Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est un désastre. La cause est largement défendu. Mais il y a, je pense, une majorité de positions plus nuancées.
Et il y a l'autre majorité silencieuse qui, elle, veut simplement exercer ses études dans un calme, dans une tranquillité.
Et dans le dialogue qui semble être resté aux portes de l'établissement, Isabelle est professeure d'espagnol. Elle se dit marquée par sa tentative d'échange avec ses étudiants.
Il y a eu un silence de plomb, comme si tout le monde surveillait beaucoup ses mots. Il y avait une tension très forte et des réactions à fleur de peau, au point que je me suis dit que comme ça n'avait pas de relation avec mon cours, j'allais cesser d'en parler.
Ici, la majorité des jeunes rencontrés, stressés par les examens, parlent déjà du blocage au passé. Être politisé, oui, mais pas question de devenir le théâtre de certains candidats à l'approche des élections européennes.
Caroline Baudry, hier, c'est à la Sorbonne que des étudiants ont tenté de planter des tentes pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza. Très vite évacués par la police, ils se sont déplacés un peu plus loin dans le quartier, soutenus par des élus insoumis. Et justement, Mathilde Panot, chef du groupe LFI à l'Assemblée, et Rima Hassan, candidate sur la liste insoumise aux européennes, devront répondre à la police aujourd'hui, accusés d'apologie du terrorisme pour un communiqué publié après les massacres du 7 octobre.
Et pendant ce temps-là, dans la bande de Gaza, les otages israéliens et le peuple palestinien sont toujours suspendus à la réponse du Hamas.
Le groupe terroriste doit encore donner sa réponse sur un accord de trêve porté par l'Égypte, amendé par Israël. Il prévoit 40 jours de cessez-le-feu, la libération des otages et de plusieurs milliers de prisonniers palestiniens.
Il est 7h33 sur Europe 1. Vos enfants ont-ils trop souvent les yeux rivés sur un écran? Un collège d'experts rend aujourd'hui au gouvernement un rapport formel sur un point avec les écrans. Les plus jeunes sont en danger.
Leur recommandation, interdire les écrans avant 3 ans et les smartphones avant 11 ans. Mais l'addiction aux écrans de nos enfants, c'est parfois du mimétisme, car nous aussi, les adultes, nous passons beaucoup de temps sur nos smartphones. C'est ce que constate Gilles Vernet, professeur et documentariste que Louis Salé a rencontré avec sa classe de CM2 dans le 19e arrondissement de Paris. Reportage.
Alors, levez le doigt, ceux qui ont leur smartphone. 1, 2, 3...
Monsieur Vernet fait le décompte. Un tiers de la classe en possède un, la moitié à une console. Et à 10 ans, ils sont bien conscients déjà du risque d'addiction.
Un jour, pendant les vacances, j'avais pris le téléphone à 8 heures. Je ne l'avais pas quitté. Le soir, j'ai regardé deux films d'affilée. J'avais hyper mal aux yeux et à la tête. Je n'arrivais pas à dormir.
Ça détruit le cerveau. Carrément, t'oublies tout ce que tu fais. T'es comme dans une bulle.
Et par exemple, si tu regardes une petite vidéo, une fois que tu l'as terminée, ça te propose plein d'autres vidéos pareilles.
Et ça vous enferme.
Et quand toute la famille s'y met, les relations en pâtissent.
Ma mère et mon père, ils sont tout le temps sur leur téléphone. Ils s'en fichent que moi et mes frères et sœurs, on regarde notre téléphone jusqu'à l'infini. Ils vont rien dire.
Et si on se parle plus, et si on s'ignore, et si on est des murs, bah je sais pas où est-ce qu'elle est l'affection. Hein. Qu'est-ce qu'on perd?
Tu perds des relations sociales avec eux, t'échanges moins avec eux, t'apprends moins bien à les connaître.
Très vrai.
Monsieur Vernet insiste par exemple sur le plaisir de jouer en famille ou de lire pour combattre l'ennui.
Louis Salé pour Europe 1. À Châteauroux, le meurtrier présumé de Mathis, mis en examen et écroué hier. Cet adolescent de 15 ans de nationalité afghane en situation régulière est accusé d'avoir frappé de plusieurs coups de couteau, dont un au cœur, le jeune Mathis, samedi soir. La mère de l'agresseur est elle aussi mise en examen pour violence volontaire, accusée d'avoir donné des gifles à la victime. Une marche blanche est prévue samedi en hommage à Mathis.
La politique et les élections européennes. Qui accompagnera François-Xavier Bellamy, Céline Imar et Christophe Gomard. La liste complète des Républicains pour les européennes, c'est pour aujourd'hui.
Hier, la réunion du parti portait sur l'arbitrage entre poids lourd historique et nouvelle tête. Ce matin, toutes les hypothèses restent sur la table, Alexandre Chauveau.
Parmi les discussions hier soir, deux cas ont surtout fait débat. Nadine Morano et Brice Hortefeux, deux sarkozistes historiques. Ils ont pour eux l'expérience de ministre, importante pour un parti qui aspire à regouverner et un ancrage local solide. En Lorraine pour Nadine Morano, en Auvergne pour Brice Hortefeux. Tous deux ont l'appui de cadres du parti, Laurent Wauquiez notamment, mais leur présence serait pour plusieurs élus le symbole d'une époque révolue pour la droite. Beaucoup plaident ainsi pour faire émerger de nouveaux visages. L'incertitude plane encore sur leur sort ce matin. Il faut dire que le parti a longtemps retardé l'échéance. Éric Ciotti et François-Xavier Bellamy souhaitant s'éviter autant que possible d'avoir à composer avec la rancune des absents. C'est un exercice désagréable pour tous les chefs de parti, reconnaît un candidat en balance. Il y a une indécision sur l'ensemble de la liste, résumait de son côté un salarié des Républicains hier soir, suspendu comme beaucoup à la décision de la Commission nationale d'investiture du parti, attendue dans la matinée.
Alexandre Chauveau, on vient de l'apprendre, le produit intérieur brut de la France progresse de 0,2% au premier trimestre 2024, selon les derniers chiffres de l'INSEE.
L'autoroute A13, elle est toujours complètement fermée au niveau du viaduc de Saint-Cloud, à l'ouest de Paris, à cause de fissures sur la chaussée.
Elle relie la Normandie à la capitale et ne rouvrira dans le sens province-Paris qu'à partir du 11 mai. Dans l'autre sens, pas encore de date définie. Depuis 10 jours donc, plus de 130 000 véhicules doivent faire un détour chaque jour et Guillaume Dominguez, le responsable, serait un chantier en contrebas de l'autoroute.
Oui, celui du musée du Grand Siècle et plus précisément le chantier de son parking souterrain situé pile sous le viaduc de l'autoroute A13. Selon nos confrères du Canard Enchaîné, un trou de plus de 5 mètres de profondeur a été creusé à l'aplomb du mur de soutènement de l'axe autoroutier. Un édifice long de 200 mètres et haut de 15 mètres bâti dans les années 30 qui ne tient que par son propre poids. C'est ce chantier qui serait à l'origine d'un glissement de terrain qui aurait entraîné un affaissement du bras de l'A13. Plusieurs experts dépêchés sur place après la découverte des fissures ont constaté que le mur avait avancé de 6 cm, un phénomène qui pourrait entraîner l'effondrement ou le basculement de l'ouvrage. Alors si le mur consent à rester debout, les ingénieurs devront stabiliser et renforcer l'édifice avant la réouverture totale de l'autoroute, des travaux qui pourraient durer plusieurs semaines. Dans un communiqué, la direction des routes d'Île-de-France annonce tout de même une reprise partielle du trafic. À partir du 11 mai, seuls les véhicules légers pourront emprunter l'axe uniquement dans le sens province-Paris.
Guillaume Dominguez. Et puis cette annonce pour tous ceux qui se rêvent stars du petit écran et qui sont un peu des détectives dans l'âme. Arnaud Malherbe lance un grand casting pour trouver le sosie de l'inspecteur Derrick.
Ah, le sosie.
Le sosie.
D'accord. Pour jouer dans la série Mémoire vive qui sera tournée entre mai et juillet près de Nantes. Alors il faut être un homme entre 60 et 90 ans.
La fourchette est large.
Ah, ça va, c'est assez large. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'Europe 1 devrait présenter un candidat. Ah. Il est un peu notre détective de l'info tous les matins, Olivier Delagarde. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a un petit truc d'Éric, ouais. Mais il est trop jeune, je crois.
Il est trop jeune, est trop c'est jeune. Vrai. Mais je pense
vous
qu'avec...
lui en avez parlé quand même. Il est au courant.
Non, je
vous
le propose volontaire.
Son nom.
Voilà, avec un blouson de cuir et des lunettes, je suis sûr qu'il ferait l'affaire.
Voilà. Olivier Delagarde qui tient la revue de presse d'Europe 1 tous les matins
à
9h moins le quart. Je dis ça pour les auditeurs de 7h40 qui n'ont pas forcément l'occasion de l'entendre. Mais vous pouvez le retrouver en replay évidemment sur Europe1.fr. Bon, on donne l'adresse du casting si autour de vous vous avez le sosie de l'inspecteur d'Éric. casting.seriememoirevive@gmail.com. Avis aux personnes intéressées. Merci beaucoup Nina Pavan, c'était votre journal. Allez, à suivre l'édito international d'Europe 1. Nous irons en Espagne parce que finalement il reste après 5 jours de réflexion. Le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez choisit de se maintenir au pouvoir alors que sa femme traîne des accusations de corruption et de trafic d'influence. Vincent Hervouet va nous raconter dans un instant.
Il est 7h39, bon réveil, bon début de journée avec Europe 1.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Quand vous avez un brise-glace, ça vous paraît compliqué à gérer ? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous lavez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Vouloir un enfant et avoir des jumeaux, oui, ça arrive. Découvrir qu'ils veulent faire la même école de commerce, oui, ça arrive.
Au fait, papa, notre école, elle est au Canada.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie, AG2R La Mondiale vous accompagne pour définir l'épargne la plus adaptée à vos besoins futurs. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, ça va ?
Non, je suis accro.
Eh ben moi je suis accro aux acras. Et en ce moment, les acras de morue sont à 1,89€ les 200 grammes au lieu de 2,69€, moins 29%.
1,89€ les acras de morue.
Et issu de la pêche durable. Hein.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 9,45€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au jeudi 2 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Il est 7h41. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour votre début de journée. Dimitri Pavlenko.
Allez, dans 10 minutes, l'édito politique. Question ce matin sur la mort de Matisse à Châteauroux. Son tueur bénéficiera-t-il de l'excuse de minorité puisqu'il n'a que 15 ans? Est-ce que Gabriel Attal réformera comme promis cette disposition de la loi qui paraît en décalage avec la violence dont sont capables certains jeunes? Nous en parlerons avec Alexis Brézet. Le Club Culture d'Europe 1 matin arrive aussi dans un instant. Nous sommes mardi, le jeu vidéo de la semaine avec vous, Caroline Speller. Bonjour Caroline.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je mets à l'honneur le sport à la petite balle jaune avec la simulation de tennis Top Spin 2K25.
Le livre du jour également. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour. Que reviennent ceux qui sont loin? C'est le titre du livre de Pierre Adrian dont je vous parle tout à l'heure.
Allez, à tout de suite Nicolas. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet.
Voilà.
Oui, justement, on part en Espagne avec vous ce matin. Le Premier ministre Pedro Sanchez a décidé finalement de rester au pouvoir.
Oui, il a réussi à sidérer deux fois les Espagnols, mercredi dernier, en tweetant qu'il suspendait toutes ses activités, une grève sans préavis. Même ses ministres les plus proches n'avaient pas été prévenus. Il s'est retiré aussitôt dans son palais de la Moncloa, comme s'il fuyait à Baden-Baden. Et il s'est muré dans le silence pour 5 jours d'une profonde réflexion. Tout ça parce que Begonia, sa femme, fait l'objet d'une enquête préliminaire pour trafic d'influence et corruption, après qu'une association de droite a signalé au parquet que la compagnie aérienne qui parraine sa fondation a encaissé plusieurs centaines de millions d'euros de subventions post-Covid. Et puis, hier matin, Pedro Sanchez, après 5 jours, a réapparu, à l'heure où les fonctionnaires démarrent la semaine autour de la machine à café, et il les a de nouveau stupéfiés. Tout bien réfléchi, il renonce à renoncer. J'ai décidé de rester, avec plus de force, si possible.
Alors, les commentaires sont sans indulgence.
À la corrida, quand le torero fait semblant, il essuie une bronca. on le traite de paillasso, de clown, et on jette dans l'arène tout ce qu'on a sous la main. Pedro Sanchez a essuyé hier un feu nourri. Son rival de droite avait parlé cruellement d'un homme qui se donne en spectacle comme un adolescent, afin que tout le monde lui court après pour l'implorer de ne pas partir et de ne pas se fâcher. Il enfonce le clou. Sanchez s'est moqué d'une nation de 48 millions d'Espagnols. Le président de la Catalogne, qui est pourtant l'allié du Premier ministre, dénonce le dernier acte d'une comédie, un écran de fumée, une manœuvre électorale. Au sein même du gouvernement, le chef de file de la gauche radicale conseille de mettre un peu moins de mélodrame dans la politique. Pedro Sanchez cherchait un plébiscite et à part les militants les plus fervents qui s'époumonaient samedi devant le siège du Parti Socialiste, ne nous quitte pas, personne ne croit à sa sincérité. Il voulait ressouder sa majorité en brandissant l'épouvantail de l'extrême droite et en criant au complot contre sa femme, mais il est trop malin, trop retors, tragédiante, comédiante, il n'a convaincu personne.
C'est-à-dire que sa fausse sortie, Vincent, le mène dans l'impasse.
Ben, l'heure de vérité, c'est dans 12 jours, avec les élections en Catalogne. Les sondages donnent le Parti Populaire largement en tête, à 39%, 10 points devant les socialistes. Mais la droite espagnole manque d'alliés à Barcelone. Les nationalistes catalans ont beau être conservateurs, ils ont dealé avec Pedro Sanchez l'amnistie pour les organisateurs de la déclaration d'indépendance en 2017. Et hier matin, Pedro Sanchez a promis le renouvellement de la démocratie espagnole, mise en danger, selon lui, par le mouvement réactionnaire mondial.
Bon, la vérité est plus simple, Vincent, c'est que Pedro Sanchez n'a pas de majorité.
Oui, mais la droite non plus. Et depuis des années, pour se maintenir au pouvoir, Pedro Sanchez fait semblant de croire que Franco revient, et à coup de réformes sociétales et de provocations aussi, il s'emploie d'ailleurs à le faire regretter. Le résultat, c'est une société polarisé, un système politique épuisé. L'amnistie des indépendantistes en échange du maintien au pouvoir est une faute. L'appel aux militants pour empêcher tout début d'enquête judiciaire sur sa femme en est une autre. À ses ordres, 2500 élus socialistes ont dénoncé ce week-end l'instrumentalisation de la justice. Des centaines de journalistes ont aussi pétitionné contre le putschisme de l'ultra-droite judiciaire et médiatique. On n'est jamais déçu par les confrères. C'est en réalité l'état de droit auquel ils s'attaquent. L'affaire Sanchez montre les ravages du narcissisme chez les dirigeants politiques et du populisme dans les États-nations européens à bout de souffle.
Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent, 7h45.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Ou devrais-je dire 8h moins le quart, tout simplement. Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, c'est un poche.
Que reviennent ceux qui sont loin, c'est le titre. L'auteur Pierre Adrian, le personnage principal, en quelque sorte, c'est une maison de famille, une maison dans le Finistère Nord, ce genre d'endroit, pour ceux qui ont de la chance, où se retrouvent chaque été cousins, frères, sœurs, oncles, tantes, grands-parents, et ça vient, c'est un peu le bazar, mais c'est chouette. Et ce roman raconte l'histoire d'un type, une trentaine d'années, sans doute l'auteur, qui est parti. Il n'est pas fâché, il n'a pas coupé les ponts, c'est juste qu'il a voyagé, loin, plusieurs étés de suite. Et donc, il a manqué 8 étés là-bas, dans la maison de famille. Cette année, il revient et il raconte.
Et que raconte-t-il ?
Il raconte les vacances, il raconte l'été, il se souvient du passé, du mois d'août qui est celui qui ressemble le plus à la vie, dit-il avec l'enthousiasme, l'ennui et la faim, F-I-N. Il raconte les feux d'artifice du 15 août, l'ennui de l'enfance, les cache-cache dans le grenier, l'odeur du pain grillé le matin, l'adolescence, les aventures, le premier baiser sur la plage elle-même, le pique-nique. Mais maintenant, il a 30 ans et c'est lui le grand et donc il observe différemment. Il y a les petits cousins, les neveux, le petit Jean par exemple, 6 ans, très très chouette. Jean, le narrateur, est un peu blasé, maintenant il regarde ça comme si tout ça était révolu. Et puis, petit à petit, il se reconnecte au présent, au mois d'août, et un drame arrive sans que l'on s'en doute, et ça vous déchire le cœur.
C'est un livre nostalgique, Nicolas.
Nostalgique un peu, mais sans poussière, poétique surtout, beaucoup de tendresse, et qui va au-delà d'une chronique des vacances d'été, bien au-delà. 30 ans, de toute façon, c'est un peu jeune encore pour les souvenirs mélancoliques. Mmh. Le titre « Que reviennent ceux qui sont loin », c'est en fait extrait d'un livre de Cesare Pavese, « Le métier de vivre », placé en exergue du roman. Et je
le
vous
métier de vivre.
Oui,
c'est très joli.
J'ai rarement vu une épigraphe coller aussi bien au livre lui-même. Accrochez-vous. Il faudrait que les morts ressuscitent, que les vieux rajeunissent, que reviennent ceux qui sont loin. Ils ont disparu, ils sont dispersés, ils sont morts, ils ne reviendront jamais plus. Et alors nous cherchons autour de nous, désespérés, nous cherchons à reconstituer ce cadre, ce petit monde, mais il n'existe plus. Il n'existe plus, sauf dans les romans donc, et dans celui-là en particulier.
Ah, très joli, Nicolas Caro. Que reviennent ceux qui sont loin, donc le livre de Pierre Adrian, qui paraît en poche donc chez Folio ces jours-ci. Merci Nicolas. Caroline Speller, le jeu vidéo de la semaine. Alors c'est le retour de la licence de simulation de tennis avec Top Spin
2K25.
Voilà, Top Spin 2K25. Voilà. Oui. Alors, si vous dites mieux que moi.
Oui. Alors Dimitri, tandis que les fans de foot, de F1 ou de catch retrouvent chaque année un nouveau jeu, ceux du tennis ont dû attendre 13 ans pour avoir enfin une suite à Top Spin 4.
Alors Top Spin, il faut le dire, chez les joueurs, chez les passionnés, c'est un jeu culte.
Oui, alors pourquoi cette absence? La raison est en fait financière. Top Spin a beau être reconnu, il n'atteint pas les ventes mondiales des simulations de foot ou de basket. À titre de comparaison, Dimitri, le Top Spin 4 de 2011, c'est un total de 1,24 million d'exemplaires vendus, tandis que le FIFA de la même année, c'est 3,2 millions, mais en une semaine.
Ah oui, effectivement. Pourquoi Top Spin fait son retour maintenant?
Alors l'éditeur 2K profite d'un regain d'intérêt pour le tennis avec l'arrivée de nouveaux joueurs stars comme Alcaraz et Sinner et la fin de la domination du trio gagnant Federer, Nadal et Djokovic.
Alors est-ce que ça vaut le coup de l'acheter si on a déjà le 4?
Oui, parce que déjà ça fait 13 ans, donc oui, donc il y a quand même un gap quand même depuis, et surtout qu'il retranscrit à merveille le tennis et ses sensations. Ici, on est dans la simulation, la vraie, celle où il faut à la fois bien positionner son joueur, avoir le bon timing pour la frappe, le bon dosage de puissance et évidemment la bonne trajectoire. Et du coup, le jeu nous oblige donc à apprendre à jouer pour appréhender les matchs en simple, en double, dans son salon ou en ligne. Pour ça, il y a la Top Spin Academy, un tutoriel dirigé par John McEnroe, plutôt serein et calme.
Il y a un vrai John McEnroe dans le jeu.
C'est la voix de John McEnroe d'ailleurs, est très serein.
Et alors, est-ce qu'il y a les vrais joueurs, les tournois officiels?
Oui, Dimitri, avant des mises à jour futures gratuites, on retrouve 25 sportifs dans un casting intergénérationnel de Roger Federer à Carlos Alcaraz et de Steffi Graf à Iga Świątek. On peut aussi jouer avec son propre athlète qu'on a créé pour le mode carrière.
Jeu Agassi. Alcaraz mène 2-1.
Et il peut dire jeu Vincent Hervouette, par exemple.
Tout à fait.
Je vais vous créer en personnage de joueur de tennis, Vincent. Ça me plaît bien cette histoire.
Alors, côté court, il y en a 48, dont ceux des 4 grands chelems et des 9 Master 1000. Et quel plaisir de glisser sur la terre battue de Roland Garros. Oui, Top Spin 2K25 a sorti son service gagnant. C'est disponible sur les consoles PlayStation, Xbox, et PC.
Oh, je vous crée aussi Nicolas Caro, tiens.
Oh,
je ferai comme ça, rapide. Un vrai renard des surfaces. Tout vous. Merci beaucoup Caroline Speller, merci Nicolas, merci Vincent. On vous retrouve avec plaisir demain. Dans un instant, votre édito politique avec Alexis Brézet, juste après le résumé de l'actualité. C'est le journal permanent sur Europe 1. Nina Pavan.
Le produit intérieur brut de la France progresse de 0,2% au premier trimestre 2024, chiffre publié par l'INSEE ce matin. Mathilde Panot, chef du parti insoumis à l'Assemblée, et Rima Hassan, candidate sur la liste LFI aux européennes, entendue aujourd'hui par la police, accusée d'apologie du terrorisme suite à un communiqué publié après les massacres du 7 octobre en Israël. Au Proche-Orient, justement, le Hamas doit donner aujourd'hui sa réponse sur un accord de cessez-le-feu de 40 jours, la libération des otages israéliens et de plusieurs centaines de prisonniers palestinien. Gérard Depardieu sera jugé en octobre pour agression sexuelle, annonce du parquet de Paris hier après l'audition de l'acteur concernant 2 plaintes pour des faits qui remonteraient à 2014 et 2021.
7h-9h, Europe 1 Matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alexis, samedi soir à Châteauroux, le jeune Mathis, 15 ans, est tombé sous les coups de couteau d'un garçon du même âge, réfugié afghan. Alors qu'est-ce qui a dysfonctionné dans ce drame? Quelles règles de droit ont été ignorées pour que l'on en arrive là?
Bah, apparemment, aucune, Dimitri. Et c'est peut-être plus terrible encore. Dans cette affaire, il semble bien, aussi ahurissant que cela puisse paraître, que les dispositions du Code de la justice pénale des mineurs ont été scrupuleusement appliquées. En France, un jeune homme, étranger, bien connu des services de police pour, je cite, son attitude arrogante, peut être interpellé une première fois en possession d'un couteau, puis présenté à la justice. Il peut être interpellé une deuxième fois, 2 mois plus tard, pour des faits de vol aggravés avec violence, parce qu'il a tendu un guet-apens à un jeune homme via un site internet afin de lui voler son portable en lui mettant son couteau sous la gorge. Mais, vu son âge et son absence de condamnation antérieure, il ne peut pas, au terme de la loi, être placé en rétention. Tout ce que l'on peut faire, et ça a été fait, c'est le mettre en examen et le placer sous contrôle judiciaire. Et c'est ainsi, dans le strict respect des règles de droit, que 6 jours plus tard, Mathis, un jeune apprenti cuisinier, dont chacun souligne la gentillesse et le caractère pacifique, a été sauvagement poignardé. Au final, un jeune garçon est mort, qu'une législation différente, un tant soit peu protectrice, aurait pu sauver. Et le plus effarant dans cette affaire, c'est que cette législation, il se trouve encore de belles âmes pour refuser de la modifier.
Alors, Gabriel Attal, il faut le dire, Alexis, s'est engagé il y a quelques jours à revoir la fameuse excuse de minorité qui réduit les peines pour les 13-16 ans.
Malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. À Viry-Châtillon, peu après la mort de Chemseddine, 15 ans, tabassé à mort dans un hall d'immeuble par deux brutes au prétexte qu'ils correspondaient avec leur sœur. Après cette affaire, Gabriel Attal a consenti, ce sont ses mots, à ouvrir le débat. Mais il l'a fait en entourant cette ouverture de tant de précautions, tant de circonlocutions, tant de conditions, qu'on voit bien que la chose ne va pas de soi. Pourquoi ? Parce qu'au sein de son gouvernement et dans sa majorité, sans parler de l'institution judiciaire ou des partis de gauche, nombreux sont ceux qui ne veulent à aucun prix de cette réforme de la justice des mineurs réclamée, quelle horreur, par la droite et le RN. Et tant pis si l'on constate tous les jours que les délinquants et les criminels sont de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Nos bons apôtres veulent bien parler d'internat éducatif, à condition qu'il soit facultatif, à l'extrême rigueur de travaux d'intérêt généraux pour les mineurs, mais de prison, pas question. Pour la gauche judiciaire, l'éducation exclut absolument la sanction. Et quand Gabriel Attal dit « Ma boussole, c'est l'impunité zéro », le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, lui répond publiquement. Moi, je dirais simplement que ma boussole, c'est la Constitution. Autant dire que pour le fameux sursaut d'autorité, c'est pas gagné.
Mais politiquement, Gabriel Attal l'a promis, il va bien devoir faire quelque chose.
Pour l'instant, il est bien embêté. Et il pensait s'en tirer par quelques mesures symboliques. Mais l'enchaînement tragique des événements violents auxquels on assiste décuple les exigences de l'opinion. Résultat, faute de pouvoir annoncer quoi que ce soit d'un peu sérieux, Gabriel Attal a dû renoncer hier au déplacement qu'il devait faire en région parisienne sur le thème de la sécurité. Mais ça ne pourra pas durer. Il paraît que le Premier ministre s'est finalement laissé convaincre de débattre face à Jordan Bardella avant les européennes. À mon humble avis, sur cette question majeure de la justice des mineurs, il vaudrait mieux qu'il se décide vite et qu'il affûte ses arguments.
L'édito politique sur Europe 1, merci Alexis Brézet. Ce drame de Châteauroux, il figure à la une du Figaro ce matin. Grand papier notamment sur l'inquiétante prolifération des attaques au couteau. Couteau que l'on a retrouvé précisément dans la mort de Mathis. C'est ce dont il est décédé. Merci beaucoup Alexis Brézet, à demain.
Il est 7h56 sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin. Nous sommes le mardi 30 avril et il y a 135 ans, le 30 avril 1889, les ailes du Moulin Rouge tournaient pour la première fois.
Tiens.
Alors qu'elle tombait il y a quelques jours. C'était l'ouverture du cabaret avec les ailes du Moulin Rouge qui tournaient pour la première fois à Paris.
Quel souvenir, nous n'étions pas là, mais on y pense quand même. Nous fêtons ce jour. En ce 30 avril, Saint Pie V, qui fut pape, élu pape en 1566. Sa grande œuvre, ce fut l'application des réformes du Concile de Trente, l'un des plus importants de l'histoire du catholicisme. Pie V qui excommunia la reine Élisabeth d'Angleterre et qui appela les princes chrétiens à la croisade contre les Ottomans. Bon réveil avec Europe 1 dans un quart d'heure. L'invité politique de la grande interview Europe 1 CNews sera Sébastien Chenu, le vice-président de l'Assemblée nationale face à Sonia Mabrouk. Votre journal et la météo dans un instant.
7h, 9h, Europe 1 matin.
La Poste. Déjà ? Adverbe qui, prononcé de manière surprise, décrit une chose qui arrive bien plus vite que prévu, comme par exemple une indemnisation.
Alors pour être indemnisé sous 48 heures en cas de sinistre couvert, découvrez l'assurance habitation de la Banque Postale. Pendant les bons plans logement de La Poste, pour toute nouvelle souscription jusqu'au 19 mai inclus, les 4 premiers mois sont offerts. Conditions sur labanquepostale.fr. CNP Assurance IARD, dénommée sous la marque La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des Assurances.
Carrefour. Quand vous me dites ronde, ferme, brillante et charnue, ça vous fait penser à... Eh bien, je vous réponds que les tomates grappes Origine France sont au prix le plus bas de 1,99€ le kilo seulement. Alors ?
Ah oui, aussi.
Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est jusqu'à jeudi, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, partenaire fruits et légumes de Paris 2024. Catégorie 1, détails sur carrefour.fr.
Hey,
Les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Le temps à bientôt 8h sur Europe 1, Nissa Dadi. Retour des orages cet après-midi.
Cet après-midi, effectivement, sur l'est du pays, entre le Lyonnais et la région parisienne, en passant par la Bourgogne, on va avoir une ligne orageuse qui pourra donner localement des orages forts avec de la grêle dans cette partie-là de la Bourgogne aujourd'hui et de la région parisienne également et du Lyonnais. Donc il va falloir être très prudent. Bon, globalement, c'est une journée où le ciel est assez capricieux. On a pas mal d'averses. Ce matin, les averses concernent une ligne située entre les Hauts-de-France et le Languedoc-Roussillon, avec des pluies soutenues ce matin encore sur les Cévennes, et ça va durer toute la journée. Nous avons une autre zone pluvieuse qui se trouve sur le Finistère, avec là aussi des pluies soutenues et du vent, vent de sud qui souffle jusqu'à 70 km/h. Les éclaircies se maintiennent ce matin le long de la façade atlantique. Cet après-midi également, pas mal d'éclaircies entre les Pays de la Loire et le Pays Basque. Les températures sont en hausse. 13 degrés à Brest et Quimper, 15 à Saint-Brieuc, 17 degrés à Clermont-Ferrand et Rennes, 20 pour Paris, 22 à Nice et 25 pour Strasbourg et Colmar, la maximale.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à vous. Bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le mardi 30 avril.